C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de l'insurrection royaliste dans le Lauragais qui a eu lieu en août 1799 et qui voit une bataille importante au château de la Terrasse à Carbonne. Alors pour nous situer, nous sommes sous le Directoire et en août 1799. Le Directoire, c'est la dernière période de la Révolution française. Cette période se terminera par l'avènement de Bonaparte, le 10 novembre, soit le 18 Brumaire. Le Directoire fait suite à la Convention et nous en finissons avec la période de la Terreur. Les conventionnels modérés décrètent l'amnistie générale, libèrent les détenus politiques, baptisent, par exemple, la place Louis XV, place de la Concorde. La jeunesse bourgeoise s'habille dans des tenues excentriques. C'est l'époque des incroyables et des merveilleuses. Le régime va très vite sombrer et une crise économique frappe l'Europe, des suites des réformes impopulaires. Instauration de nouveaux impôts, par exemple sur les portes et fenêtres, et la misère effroyable, ainsi que la banqueroute. Malgré tout, de nombreux points positifs sont encore de nos jours dans la Constitution française, qu'il nous faut signaler. Égalité devant la loi, suffrage universel, liberté de presse, séparation de pouvoir entre l'Église et l'État, école publique, nouveau système d'unité de mesure. Mais les pays européens se coalisent tout autour de la République. L'ennemi est aux frontières françaises. Des révoltes intérieures reprennent dans la Vendée, la Bretagne, la Corse et dans le Midi. Le soulèvement royaliste d'août 1799 dans le Midi a été dirigé par l'Angleterre. Elle prépare ce soulèvement avec de gros moyens. D'abord, le Lauragais est catholique avec 80% de paysans, en majorité hostiles à la République. Il y a là un gros potentiel de combattants. La proximité avec l'Espagne va permettre à de nombreux émigrés de rentrer clandestinement pour épauler tous ces mouvements. Une institution secrète implantée dans le Bordelais et à Toulouse recrute dans les Pyrénées, dans les Landes, surtout dans le Gers et la région toulousaine. Des bataillons et compagnies sont organisés. Les chefs sont nommés. Les royalistes sont nombreux, 10 000. Bien sûr, mal équipés et désarmés de canons. Le chef principal de ce mouvement est le général Antoine Rouget, ancien général républicain, récemment rallié depuis 3 ans aux royalistes. Rouget est un ancien officier natif de Saint-Domingue. Il a fait la guerre d'indépendance des États-Unis en 1776 et connaît la région, car il a servi dans l'armée républicaine des Pyrénées-Orientales. L'autre chef est le jeune comte Jules de Polo, seigneur de Calmont et de Terre Aqueuse. Émigré en Espagne, il n'a que 24 ans et peu d'expérience militaire. Depuis quelque temps déjà, les troubles agitent la région. À Sainte-Gabelle, Escalquens ont tué un gendarme à la Coustille, des attaques à Naïoux. La population se soulève contre l'application de la loi Jourdan-Delbrel, sur la conscription qui obligeait le service militaire obligatoire et universel pour tous les Français. Les jeunes paysans refusent de partir, bien sûr, et on compte 70% de réfractaires dans le Lot, 28% dans l'Ariège et 22% dans la Haute-Garonne. Nous pouvons, dès lors, penser que les campagnes sont favorables aux royalistes. La ville de Toulouse, elle, est cataloguée de rouge. Les royalistes passent à l'action dès le début d'août. Bien trop tôt d'ailleurs, ils sont mal synchronisés. Les républicains semblent au courant de leur stratégie. Ils sont informés par des éléments infiltrés, tel l'abbé de Montgaillard qui fournit aux républicains la date de l'attaque de Toulouse. Ceux-ci renforcent les postes, mais ils sont eux aussi mal équipés et surtout mal préparés. Le premier échec royaliste a lieu devant Toulouse, les 5 et 6 août 1799. La tentative de s'emparer de la ville, par surprise, est un échec. Rouget se concentre alors sur les coteaux de Pêche-d'Avis. Le 7 août, les royalistes tentent une offensive porte des Salins. Mais là aussi, ils sont repoussés, difficilement d'ailleurs, mais des renforts viennent en aide aux Toulousains dès le soir. La contre-attaque républicaine du 8 août, commandée par le général Aubugeois, est un moment repoussée, en désordre vers Saint-Michel. Néanmoins, Aubugeois réattaque dès le 9 au matin avec de l'artillerie et de la cavalerie. Il repousse les insurgés au-delà du fleuve avec de lourdes pertes. Dès les premiers jours, les royalistes occupent le département du Gers, sauf Auch, le Lot-et-Garonne, l'Ariège, sauf Foix et Pamiers. En Haute-Garonne, Lanta, Caraman, Nayoux, Montgaillard sont prises. Bazièges, Villefranche, Revel et Castelnaudary résistent et restent républicaines. Une colonne républicaine partie de Toulouse est écrasé à Lanta. Alors les royalistes se concentrent à Nayoux, puis rejoignent les troupes de Polo près de Calmont. Et le 21 Midor, ils prennent Sainte-Gabelle. Ils fusillent les gardes nationaux venus de Mazères. Ils se dirigent ensuite vers Saverdun, puis marchent sur Pamiers. Au Vernet, ils sont arrêtés par les républicains, renfoncés par l'artillerie venue du Mazazil. Polo bat alors en retraite désordonnée vers Muret. À Muret, Rouget et Polo rassemblent leur effectif. Ils attendent des renforts du Gers et de l'Ariège pour reprendre Toulouse, mais ces renforts tardent, le temps passant. Toulouse reçoit l'appui de Carcassonne, d'Albi, des munitions et une unité de cavalerie de Perpignan. Les royalistes quittent alors Muret, pensant atteindre l'Espagne par le Val d'Aran. Ils s'emparent de Noé et Carbonne, et certains prennent position au pont de Carbonne et sur les terres du château de la Terrasse. Nous sommes le 12 août 1799. À Carbonne, où sont dissimulées les troupes royalistes, protégées par le grand mur d'enceinte du château de la Terrasse, un concours de circonstances va leur donner la victoire. Le général Barthier, avec une colonne républicaine, doit passer par Saint-Élix et le Grand Axe, s'approvisionner aussi à Saint-Élix. La population prépare la subsistance pour 1500 soldats et attend. Il doit reprendre Carbone, mais le général, au lieu de venir directement à Saint-Élix comme convenu, passant par le Grand Axe, passe par Saint-Julien et Salles, pensant être au pont de Carbone avant les insurgés. Dans ces troupes républicaines, on retrouve un Martret connu, un nommé Limargue, et ses hommes, une colonne de volontaires levés, mal préparés et pressés à en découdre avec les royalistes. La surprise est totale, les combats très meurtriers. Limargue, refusant de se rendre, blessé, abandonné dans le champ de bataille, sera achevé, refusant de dire « Vive le roi !» Les renforts républicains venus d'Ariège, de Montesquieu et de Rieux, commandés par Léra, sont repoussés au pont de Carbone. Alors, pris de panique, les troupes républicaines battent en retraite, fuient, s'arrêtant épuisées après Saint-Gaudens. Voici ce que dit une chronique de l'époque. Nous fûmes connaisseurs de la déroute des républicains qui, inférieurs en nombre, avaient été obligés de se retirer après avoir laissé nombre de morts sur plusieurs points, et notamment derrière le parc de la Terrasse et au pont de Carbone, où plusieurs avaient été forcés à se jeter dans des précipices pour éviter une mort certaine, et où ces barbares les fusillaient, malgré qu'ils fussent sans défense. Ces combats de Carbone firent 68 morts, 200 blessés et 300 prisonniers. Les morts étant enterrés dans le parc de la Terrasse, dans un tumulus encore visible. La colonne mobile du canton de Martres-Tolosane, commandée par Limargue, perdit à elle seule 42 hommes. Le 26, les habitants de Saint-Élix, apeurés, virent une troupe de 300 royalistes à pied et à cheval, criant « Vive le roi !» brisant les armoires et les drapeaux. Mais on en reconnut certains meneurs. Tout en se repliant vers l'Espagne, les royalistes de Rouget occupent Saint-Gaudens, ceci sans résistance, ainsi que Montrégeau, le 29 Thermidor. Ce jour-là, trois colonnes républicaines venant de l'Ariège, de Tarbes et Toulouse, menées par Comme de Vissoze, convergent à Montrégeau et encerclent les royalistes. Les royalistes sont écrasés, perdent 2000 hommes et 1000 prisonniers. Leur armée est détruite. Leur chef s'enfuit en Espagne. La répression fut très violente. Il y eut 6000 arrestations et seulement 11 condamnations à mort. Ceci par souci de politique d'apaisement vis-à-vis de nombreux agriculteurs arrêtés. Bonaparte, arrivant au pouvoir le 18 Brumaire, fit remettre tous les prisonniers en liberté. Des bandes isolées dans le Gers et l'île en Jourdain seront réduites peu après. Quant au général Antoine Rouget, chef de cette insurrection, il mourra de sa belle mort en 1832 à Saint-Orens-de-Gameville, près de Toulouse. L'insurrection de l'an 7 dans la région toulousaine fera plus de victimes que la terreur de l'an 2. Il est bon de rappeler le sacrifice de ces enfants de nos villages, du Volvestre et du Comminges, venus combattre pour défendre la République. Le soulèvement des Chouans du Midi est bien oublié depuis. J'ai pris des sources et des informations dans la Contre-Révolution, 1789-1804, écrite par Jacques Godeschaux. Par l'Histoire générale du Languedoc, en 1846, écrite par Dumège. L'Histoire de Saint-Élix-le-Château, en 1991, par Gabriel Manière. L'Histoire de Carbone, par l'abbé Joseph de Dieu. Et aussi un article, une figure martraise de la Révolution, qui a été écrit par Gabriel Manière.
Madame Bétou avait promis, Madame Bétou avait de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais ce ne fut pas manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive les sons, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Que réclamant républicain, que réclamant républicain. L'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Lutter pour pas chez nous, plus de riches et vous. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Qu'est faut-il au républicain, qu'est faut-il au républicain. Du fer, du plomb aussi, du pain, du fer, du plomb aussi, du pain.
Retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.